Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 Renault de seconde qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera à vous, fidèles auditeurs de 24 Renault de seconde, et vous apprendra peut-être à vous, nouveaux venus, bienvenue, welcome, welcome, tout ce genre de choses, que 24 Renault de seconde est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis 1895, bon à peu près, après les historiens se débattent, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, bien oui, le cinéma, il est toujours là, bien vivant, et par conséquent, la musique de film, elle est toujours là, aussi bien vivante. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière américaine d'un des plus grands compositeurs de musique de film français, mais qui a quand même connu une gloire internationale, plutôt dans sa carrière américaine que française, Maurice Jarre, dont on ne va pas détailler ce jour la carrière, on va juste évoquer quelques films, et pour une fois, mais on va se faire plaisir, j'espère que c'est le cas à chaque émission de 24 notes secondes, mais on va essayer ce jour de passer des musiques de films peut-être un peu plus connues que d'habitude, il en faut aussi. Et on va commencer en écoutant un extrait de la bande originale d'une super production tournée en 1962. Le film s'appelait en anglais The Longest Day, en français Le Jour le Plus Long. Et Le Jour le Plus Long, eh bien, c'était l'adaptation, c'est mieux, d'un livre de Cornelius Ryan consacré au débarquement du 6 juin 1944, décidé par le général Eisenhower sur les plages de Normandie. Alors évidemment, on ne va pas évoquer ce débarquement que le film reconstituait sur plus de 3 heures, donc avec un luxe de détails assez conséquent, évidemment des écarts avec la réalité historique tout aussi conséquent. Le but était d'offrir un grand spectacle, une super production en cinémascope et de réunir devant la caméra pour des rôles non pas mineurs mais à chaque fois courts, eh bien, les personnages principaux de ce débarquement. C'est ainsi qu'on retrouvait, alors vraiment je ne vais pas tous les citer, mais du côté américain, pardonnez-moi, John Wayne. Évidemment, un film de guerre sans John Wayne dans les années 60, c'était inenvisageable. Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton et même dans Sean Connery, dans le rôle évidemment d'un Anglais. Et puis, il y avait les Français, Bourvil, Jean-Louis Barrault, Arletty, Madeleine Renaud. Et puis, il y avait les Allemands, parce qu'évidemment, il y avait aussi des Allemands. Kurt Jungers, Peter Van Egg, Gert Frobe, bref, à chaque fois, la crème des acteurs actrices de chacun des pays considérés. Le film était plutôt réussi, on l'a longtemps vu tous les 6 juin sur les écrans de la télévision. Maintenant, comme il est en noir et blanc, évidemment, plus de films en noir et blanc à la télévision, les gens seraient trop choqués, pensez donc. On va donc se contenter, en l'espèce, d'écouter un extrait de la bande originale. Elle est signée de Maurice Jarre, mais ça, vous l'avez compris, le tout dans 24 notes secondes.
Thank you.
Ah bah évidemment, on pouvait pas s'attendre à du Franz Liszt, un extrait de la bande originale du Jour le plus long, une musique de Maurice Jarre. Je m'aperçois que je n'ai pas cité le, ou plutôt les réalisateurs du film, puisqu'en fait, il y en avait un pour les séquences allemandes, Bernard Wicki, un pour les séquences américaines, Andrew Marton, et un pour les séquences britanniques, Ken Anakin. Alors vous avez compris, il n'y en avait pas pour les séquences françaises, parce qu'il n'y avait pas de séquences françaises, mais en l'espèce, le maître d'œuvre du film, eh bien, c'était le grand Daryl Zanuck, l'un des derniers producteurs à l'ancienne qu'on trouvait dans les années 60 et qui avait monté là un coup un peu risqué, car le film, on s'en doute, avec 23 000 hommes de troupes mobilisés et 10 mois de tournage avait coûté, disons, un paquet d'argent, et bien il leur apporta encore plus, c'est ça, les bonheurs parfois du cinéma. On va rester avec Maurice Jarre, mais alors on va changer complètement et de genre et d'époque, puisqu'on va passer de 1962 à 1985, puisque la carrière de Maurice Jarre eh bien, fut fort longue. Et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film intitulé Witness, en français ça s'appelait Témoin sous surveillance, mais bon, tout le monde le connaît sur Witness. Alors, c'est une histoire policière, mais la principale particularité de Witness, eh bien, c'est l'environnement dans lequel se passait cette histoire. En l'espèce, la communauté Amish, les descendants d'une secte anabaptiste allemande fondée au XVIe siècle et qui a gardé, eh bien, de sa fondation un certain nombre de règles tout à fait particulières, notamment, pour faire simple, le refus de toute innovation technologique, c'est-à-dire que les Amish s'éclairent encore à la bougie et voyagent encore en carriole. Ils ne se font pas photographier, ce qui fait que, d'après ce que disait Peter Weir, le réalisateur du film, eh bien, le tournage du film n'a suscité chez eux absolument aucun intérêt. Et pourtant, le film a fit beaucoup pour mettre en lumière leur communauté. Et évidemment, l'intrigue qui tournait autour d'une enquête menée par le viril Harrison Ford, eh bien, elle jouait beaucoup sur ces contrastes entre le monde technologique des années 80 et puis le monde des Amish qui, lui, était plutôt resté quelque part entre le 16e et le 17e siècle. Aux côtés d'Harrison Ford, il y avait Kelly McGillis qui jouait le rôle d'une jeune Amish. Et là encore, du fait des règles de vie des Amish, eh bien, ne pouvait s'esquisser une histoire d'amour entre les deux personnages, même si on sentait bien qu'ils n'étaient pas indifférents l'un à l'autre. Chacun, à la fin, retournait qui à la civilisation américaine de base, qui dans sa communauté Amish. Ma foi, le résultat eut un très gros succès et fut fort bienvenu. Pour l'occasion, Maurice Jarre, il s'en fit une spécialité à la fin de sa carrière, avait composé une musique toute électronique, c'était à la mode dans les années 80. Donc on se replonge dans les dites années Witness dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà, effectivement, on ne fait plus trop des musiques comme ça. Maintenant, un extrait de la bande originale de Witness, un film de Peter Weir. Une musique de Maurice Jarre en 1985. Maurice Jarre, auquel nous consacrons notre émission de ce jour. Et on va rester dans les années 90 avec un film qui est une sorte de symbole des années 90. Un film, c'était pas gagné au départ, on va dire. Ça s'appelle Ghost, tourné en 1990. Et c'était pas gagné au départ pour des tas de raisons. D'abord parce que le réalisateur de ce qui est quand même une comédie romantique, eh bien, était surtout connu pour des comédies déjantées, comme Y a-t-il un pilote dans l'avion, 1 et 2. Tu aimes les films de gladiateurs? Bref, ou Top Secret, Jerry Zucker, qui se vit confier ce scénario qui n'était pas du tout a priori pour lui. Dans le rôle principal du garçon, eh bien, il y avait Patrick Swayze, dont le réalisateur avait dit « Il faudra me passer sur le corps pour qu'il ait le rôle ». Un rôle qui fut refusé successivement par Harrison Ford, Tom Hanks et Tom Cruise, excusez du peu, puisque en fait le personnage est celui d'un mort. Ghost, ça veut dire fantôme. Et effectivement, le personnage incarné par Patrick Swayze meurt, attention spoiler, très rapidement au début du film. Quant à l'interprète féminine principale, là encore, le rôle fut refusé par Nicole Kidman et Madonna, excusez du peu, et il échut finalement à Demi Moore, et on dira que ces trois-là, Jerry Zucker, Patrick Swayze, Demi Moore, eh bien, rencontrèrent le rôle de leur vie, chacun dans leur genre, puisque le film était une petite production romantique d'un coût d'une vingtaine de millions de dollars, et rien qu'en sortie salle, ça fit 500 millions de dollars. Donc on peut imaginer que tous ces gens-là furent riches après. Ma foi, le film n'avait pas rencontré un grand succès critique, mais c'est une histoire romantique fort bien troussée, vaguement, très vaguement inspirée de l'Hamlet de William Shakespeare, dans lequel, je le rappelle à Béotien, on voit le père d'Hamlet lui conjurer de le venger dans une scène fameuse. Et là encore, eh bien, le fantôme essaie de résoudre le mystère de sa mort avec l'aide de sa femme et avec l'entremise, je ne garde de l'oublier, de la fantastique Whoopi Goldberg qui joue le rôle d'une voyante un peu excentrique et qui, pour son malheur, est la seule personne qui entende Patrick Swayze alias le Ghost. Ma foi, le tout est plutôt drôle, plutôt romantique, et la musique, donc, là encore, elle est restée fameuse. J'en dirai un tout petit peu plus après, mais on va en écouter un extrait, hein, Maurice Jarre, Ghost, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de la bande originale de Ghost, une musique signée de Maurice Jarre, avec une petite réserve quand même, puisque le fameux thème qu'on entend dans ce morceau, eh bien, il n'est pas de Maurice Jarre, mais d'Alex North, un grand compositeur américain auquel on a déjà consacré une émission de 24 notes secondes. Ça s'appelle Unchained Melody, et c'est bien antérieur aux années 90, et bien antérieur donc à Maurice Jarre, et bon, ma foi, peut-être que Alex North aurait pu être cité au générique de Ghost, surtout pour un film qui a rapporté un demi-milliard de dollars rien qu'en sortie salle. Voilà, petite aigritude, mais on va passer rapidement. Et on va retourner au genre qu'on a évoqué tout à l'heure à propos du jour le plus long, puisque Paris brûle-t-il, tourné en 1966 par René Clément, reprenait un peu les mêmes principes que le dit jour le plus long, en l'espèce sur 3 heures, là encore, pourquoi faire court quand on peut faire long, eh bien on racontait la libération de Paris, adapté d'un roman, d'un livre, pardon, signé de Dominique Lapierre et Larry Collins. Le film reprenait cette célèbre phrase prêtée à Hitler, il est très difficile de dire s'il l'a vraiment prononcée, téléphonant au général von Scholtitz, qui à l'époque était le commandant allemand de la place de Paris, pour lui demander si le plan diabolique de Hitler, c'est-à-dire qui consistait à détruire tous les monuments, les principaux monuments de Paris, juste avant que la ville soit reprise par les Alliés, eh bien, si ce plan avait été exécuté, eh bien, évidemment, il ne l'a pas été. Les principaux ponts et les principaux monuments de Paris sont toujours là, Dieu merci, même si Notre-Dame, en tout cas, n'est plus telle qu'elle était au temps de Paris brûle-t-il, mais pour le reste, eh bien, Paris est encore là et le plan ne s'est pas avéré, grâce en partie au général von Scholtitz et puis à l'entremise de quelques personnages. Là encore, le casting était relativement prestigieux. Alors là, pour le coup, il y avait quand même beaucoup de personnages français. Il y avait Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Jean-Pierre Cassel. Il y avait Alain Delon dans le rôle de Chaban-Delmas. Alors, un personnage bien oublié, mais à l'époque, ça avait beaucoup marqué les esprits. Michel Piccoli, Claude Riche dans le rôle du général Leclerc, etc., etc. Et du côté des Américains, puisque la libération de Paris, c'est quand même une histoire essentiellement franco-américaine. Eh bien, on avait Kirk Douglas dans le rôle du général Patton et Glenn Ford dans celui de son adjoint, le général Bradley. Ma foi, le résultat était quand même plutôt plaisant. Il faut dire qu'à partir du livre de Dominique Lapierre et Larry Collins, le scénario avait été élaboré par deux piliers du cinéma français, Jean Orange et Pierre Bost, et deux qui allaient devenir des piliers du cinéma américain, en l'espèce Gore Vidal, un romancier un peu iconoclaste bien connu, et un autre personnage qui connaîtra une autre fortune, puisque le scénario de Paris brûle n'était rien moins que co-signé par Francis Ford Coppola, qui trouvait là l'une de ses premières collaborations au cinéma. Ensuite, et ce n'est pas un hasard, eh bien, il sera aussi le scénariste du fameux Patton de Franklin Schaffner, tourné, je crois, en 1969 avec George C. Scott dans le rôle principal. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, bien évidemment signée de Maurice Jarre, dans 24 notes secondes. Thank you. Alors, le Standard a été inondé d'appels, donc je vous le promets, la prochaine fois, on vous passe Paris en colère avec Mireille Mathieu, un extrait de la bande originale de Paris brûle-t-il, ce fameux thème, donc repris dans une chanson interprétée par Mireille. Bon, c'est promis, bon là, on a fait un petit écart, j'espère que vous nous le pardonnerez. Il faut dire que l'émission, elle n'est pas consacrée à Mireille, elle est consacrée à Maurice Jarre. Et pour se quitter, eh bien, on va écouter certainement les deux plus fameux thèmes de Maurice Jarre et les deux plus connus de ses musiques de films. Et on va commencer par un extrait de celle du Docteur Jivago, un film tourné par David Lean en 1966. Que du bonheur, évidemment adapté du roman de Boris Pasternak, prix Nobel, si je me souviens bien, par Robert Bolt. Dans les rôles principaux, il y avait dans celui Docteur Jivago, Omar Sharif, bon il est égyptien, c'est pas grave, c'est le cinéma, il peut interpréter. Et Julie Christie, elle est anglaise, bon, même remarque, dans le rôle de Lara, on y revient. À leur côté, Alec Guinness, Rod Steiger, Tom Courtney, et même Klaus Kinski, etc., etc. Une adaptation, alors là, c'était pas 3 heures, c'était 3h20, si je calcule bien ma petite fiche. Bref, une adaptation au fleuve, mais on ne voyait pas le temps passer, car ce film, eh bien, c'est la perfection des grosses productions des années 70, c'est-à-dire que tout est parfait, les décors, les costumes, la mise en scène de David Lean, absolument magistrale, l'interprétation, que sais-je encore, et évidemment la musique, je pense que vous allez rapidement la reconnaître, un extrait du Docteur Jivago dans 24 notes secondes. Ah ben je suis bien Marie, mais en fait le temps nous est compté, on n'aura pas le temps d'écouter un extrait de la bande originale de Laurence d'Arabie, un film de David Lean tourné en 1962, là encore avec une musique de Maurice Jarre. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. On va se quitter avec Henry Mancini, Diamant sur canapé 1962. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.